nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leur message, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive.
Un podcast, c'est une discussion, des voix. Et celle de mon invité aujourd'hui est particulière et on peut la confondre avec un grand slameur français. D'ailleurs, pendant un karaoké, lors d'un stage avec l'association Comme les autres de Mika Jérémias, il nous a particulièrement bluffés. Mais bon, il n'y a pas que la voix, il y a ce physique impressionnant et ce palmarès hors norme de handballeur. Vraiment ravi d'accueillir au micro de Belle Trace, Monsieur Jérôme Fernandez.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, très bien. La saison repart sur les chapeaux de roue comme chaque fois. Et c'est vrai qu'on a envie de voir un petit peu tout ce qui va se passer lors de cette saison.
Alors cette voix, tu t'en sers maintenant au micro, soit Eurosport, soit France Télévisions essentiellement, hein, c'est ça?
Oui.
Cette après-carrière, tu l'avais prévue aussi ou ça s'est fait comme ça?
Non, ça s'est fait complètement comme ça, d'une part parce que je n'avais pas prévu de faire cette carrière-là. Et je ne savais pas vraiment en fait ce qui allait m'être proposé quand j'allais arrêter de jouer. Ce que je savais, c'est que je voulais rester dans mon milieu parce que c'est ma passion et que je voulais me reconvertir comme coach. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités, pas seulement au niveau des médias. Et tout ça, je le prends au fur et à mesure et j'essaie de le gérer au mieux dans mon planning quotidien.
Et est-ce que tu as une grosse préparation? Tu restes au contact des joueurs? Comment ça se passe?
Alors, je ne reste pas au contact des joueurs parce que quand j'étais joueur, même si j'appréciais qu'on passe des coups de fil et de faire des interviews et tout ça, c'est quelque chose qui est assez chronophage et je pense que voilà, les joueurs ils ont besoin de se concentrer sur eux, sur leur carrière, sur leur préparation de match à chaque fois. Par contre, oui, je suis tous les résultats, même on va dire au niveau au bas niveau professionnel, voire au niveau amateur, que ce soit fille ou garçon, puisque mon père et ma mère jouent au handball, donc je m'intéresse aux deux. Et puis je suis fan de sport, donc tous les jours, je m'intéresse à ce qui se passe dans l'actualité sportive.
Tu le disais, c'était une famille de handballeurs, donc c'était évident pour toi, c'était pas évident pour toi quand tu étais petit, mais en tout cas, ça s'est fait naturellement d'aller au handball. Tes débuts, c'est resté dans le cadre familial.
Oui, alors c'est vrai que mes parents se sont connus dans le même quartier, dans le même club de hand, qu'étant l'aîné de la famille et ayant peu d'écart d'âge avec eux, j'ai tout de suite goûté au ballon qui colle et j'étais dans les gymnases tous les week-ends. Donc naturellement, je me suis inscrit au handball très jeune, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, le handball n'était pas professionnel et mes parents jouaient à un niveau respectable, mais pas au plus haut niveau français. Donc j'ai passé toute mon enfance un petit peu, comme tous les enfants, à essayer d'imaginer le métier que je voudrais faire plus tard. Et en fait, c'est quand je suis rentré au pôle à l'âge de 15 ans nos anciens, les bronzés à l'époque, qui sont devenus ensuite les Bargeaux, ont gagné cette première médaille aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et tout le handball français s'est pris à rêver d'un coup. Le handball s'est professionnalisé et à partir du milieu des années 90, ceux qui évoluaient au plus haut niveau français pouvaient en vivre et ne faisaient que ça. Donc tout ça en fait est venu petit à petit et ça m'a permis à partir de 1996-1997 de pouvoir en faire mon métier et finalement d'en faire ma vie alors qu'au départ c'était pas prévu comme ça.
Mais tu as été quand même pro hyper jeune. J'ai lu que tu avais signé, à 16-17 ans à Bordeaux, c'est ça?
Oui, alors j'étais pas pro à l'époque.
Ah ouais, d'accord.
J'étais dans un tout petit club de la banlieue bordelaise, à Carbon-Blanc. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, à la sortie de ma première année de pôle, j'ai été sollicité pour aller dans le gros club de Bordeaux, donc les Girondins à l'époque, qui évoluaient en première division. Mais c'était pour jouer avec l'équipe Espoir, donc les moins de 21 ans, on va dire. Et lors de cette première saison, j'ai commencé un petit peu à taper dans l'œil de l'entraîneur de l'équipe professionnelle, Borogolic. Et dès la saison suivante, à l'âge de 17 ans, il a commencé à m'incorporer aux entraînements des pros. Je jouais le week-end avec les espoirs, mais je m'entraînais essentiellement avec les professionnels. Et voilà, petit à petit, en progressant, j'ai commencé à faire des feuilles de match. J'ai fait mon premier match en première division à l'âge de 18 ans à Marseille, à l'époque, quand il y avait l'OM Vitrolles, contre toutes les grandes stars, en tout cas une grande partie des grandes stars de l'équipe de France. Et du coup, j'ai commencé vraiment à rêver à ce moment-là en me disant finalement, je vais peut-être pouvoir faire carrière à haut niveau. Et les choses se sont très vite accélérées parce que j'ai été pris en équipe de France Espoir de ma génération dans l'année suivante. J'ai passé mon bac, je suis parti au bataillon de Joinville quand j'ai eu mon bac. Et en fait, ma vraie carrière pro a démarré à l'âge de 20 ans quand je suis parti de Bordeaux et que j'ai signé à Toulouse.
Ouais. Et tu étais grand à 15 ans, tu étais déjà 1m99?
Non, j'ai eu une croissance assez tardive. Je suis rentré en pôle à l'âge de 15 ans, je faisais 1m78, donc je ne faisais pas partie des plus grands. Ouais. Alors dans mon petit club, je jouais arrière-gauche. Mais quand j'étais en sélection régionale ou quand j'avais fait un stage national, j'étais utilisé aussi à l'aile. Parce que personne ne savait la taille que j'allais faire, même si mes parents étaient relativement grands pour leur génération. Et finalement, pendant ces trois années de pôle, j'ai pris énormément de centimètres. Et je suis passé de 1m78 à 1m97. Donc du coup, je me suis spécialisé sur ce poste d'arrière. Et mon apprentissage s'est fait essentiellement là-dessus. Mais j'ai goûté un petit peu à tout tout au long de ma carrière.
Parce que souvent, on dit que le sport de haut niveau intense bloque la croissance. Pour le coup, là, il l'a pas bloqué.
En tout cas, si ça l'a bloqué, tant mieux, parce que sinon, j'aurais dépassé les 2 mètres. Mais non, je pense que oui, il y a des disciplines qui peuvent effectivement bloquer ce processus. Mais nous, en balle, à 1 ou 2 centimètres près, je pense que tout le monde arrive à la taille qu'il doit faire. Et là où il faut faire attention, c'est justement dans cette période de grande croissance, de ne pas se faire mal parce que moi quand je suis rentré en pôle, je suis passé de 2 entraînements semaine à 7 plus les matchs au week-end et c'est vrai que dans cette période-là, il y avait des joueurs qui étaient peut-être plus talentueux ou plus doués que moi mais qui petit à petit ont commencé à se blesser parce que la cadence était trop forte et que leur corps n'a pas suivi. Moi j'ai eu de la chance j'ai récupéré la génétique de mes parents et j'ai été assez épargné de ce côté-là, donc ça m'a permis de progresser de manière linéaire et finalement d'atteindre le plus haut niveau.
Ouais. Et quand tu... toi, en fait, donc, t'as pas été grand tout petit, enfin, tout jeune. Dans mon podcast, j'ai reçu Fabien Pelouse qui, lui, a été grand jeune. Et en fait, il disait que le sport lui a permis d'accepter son corps. Et il dit, avant, il était mal à l'aise. Et en fait, après, il a pris de l'aisance, quoi, avec son corps, son outil de travail. Et c'était positif.
Après, c'est vrai qu'on vient d'une génération où... la taille était un peu tabou.
Ouais.
Et quand on était très grand, que ce soit les filles ou les garçons, on était de suite moqués. Mmh. Et quand on est grand très vite, c'est vrai qu'on n'a pas encore la musculature pour se tenir bien droit et tout ça. Donc des fois, ça fait des jeunes très grands qui sont un peu voûtés, qui se tiennent mal. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut essuyer des moqueries. Mais moi, comme ça a été progressif, j'étais grand par rapport à la moyenne, mais j'étais jamais très très grand. Donc finalement, j'en ai peut-être moins souffert et je pense que du coup, mon corps s'est adapté de manière plus naturelle. Quoi.
Et c'est vrai que ton corps, là on était hier soir en conférence ensemble sur le sport et les blessures et en fait, ta carrière était déjà super longue et finalement, tu n'as pas eu énormément de blessures par rapport à d'autres. Tu l'as bien géré quand même.
Alors, je ne sais pas si on gère les blessures, mais je pense qu'effectivement, par rapport à d'autres... j'ai essuyé moins de graves blessures. Mmh. J'ai eu des blessures, mais des choses assez faciles à réparer. Vraiment, le seul problème que j'ai eu qui m'a vraiment gêné, ça a été une hernie discale que j'ai contractée en 2005, donc j'avais déjà 28 ans. Mais après, ça a été des entorses aux chevilles, des fractures aux doigts. Donc, ce sont des choses qui, quand on est bien suivi, se remettent assez facilement. Et comparé à d'autres joueurs qui ont eu des ruptures de tendon d'Achille ou de ligament croisé au genou, voire des luxations d'épaule, bon, moi, je n'ai pas eu ce genre de choses et du coup, ça n'a pas freiné ma progression. Quoi.
Et alors, tu as fait quand même, tu as aussi fait dans l'originalité, puisque tu t'es brûlé. C'était le matin ou la veille de partir sur un grand championnat, c'est ça?
Oui, j'ai cette particularité d'avoir eu des blessures, entre guillemets, plus grave en dehors des terrains que sur les terrains. Alors quand j'étais adolescent, j'ai eu une entorse cervicale en tombant mal au ski.
Bon, on pardonne.
Oui, bon, ça me gêne encore aujourd'hui parfois au niveau des cervicales. Donc c'est quelque chose quand même qui m'a dérangé tout au long de ma vie. Mais c'est vrai que cet épisode de brûlure, il a été compliqué à accepter, à gérer parce que c'était un accident domestique. C'était le matin de partir au championnat d'Europe en Croatie et ça m'a fait relativiser plein de choses parce que il a fallu que je passe par des greffes, par une rééducation, ou en tout cas des traitements importants au niveau de la peau qui avait été greffée. Et j'ai fait quand même une semaine de fauteuil roulant, le chirurgien m'a annoncé que les sports de contact étaient terminés. Et c'est vrai qu'à 23 ans, on prend un gros coup sur la tête et ça m'a permis de faire la part des choses. Alors je lisais ce matin l'interview d'Elohim Prandi qui a eu une agression au 31 décembre la saison dernière et qui dit que voilà, à 23 ans, il a compris qu'il y avait des choses qu'il fallait mettre en place pour faire du haut niveau. Ben, moi j'étais un peu pareil, c'est-à-dire que je venais d'une famille où le handball était avant tout un plaisir et on prenait plaisir à retrouver les amis. Donc j'étais construit un petit peu dans du handball, on va dire, un peu festif. Et c'est vrai que cet épisode-là m'a fait mûrir et après, je me suis un peu plus concentré sur ma carrière et sur ce que je devais mettre en place pour réussir à atteindre mon niveau maximal. Quoi.
C'est vrai que ça, c'est assez récurrent quand même, avec tous les champions que je côtoie, et notamment au micro de Beltrace, c'est se servir un peu des échecs et des accidents pour progresser, pour continuer à progresser. Alors des fois, ça peut être des vrais arrêts de carrière, mais quand même, dans l'ensemble, c'est ceux qui ont réussi à transformer ces échecs en réussite, quoi.
Tout à fait, et surtout, comme je le dis, quand c'est pas sur le terrain, parce que quand on est sportif de haut niveau, la blessure fait partie de la carrière, donc on l'accepte. Ça peut être un accident, ça peut être un surentraînement, un moment de fatigue, etc. Mais quand c'est un fait de vie, un accident qui n'a rien à voir avec la pratique sportive, bah, c'est vrai qu'on prend une claque et puis on essaie d'en tirer le meilleur pour essayer de se protéger au maximum et de pouvoir profiter de sa carrière au maximum. Mmh,
c'est sûr. Et alors tout à l'heure, tu parlais des bronzés, des barjots. Ça a été tes inspirations ou quelles ont été tes inspirations au début de ta carrière et pendant ta carrière?
Alors nous, on n'avait pas autant de matchs à la télé.
Oui.
Moi, j'allais voir les matchs des Girondins de Bordeaux au Palais des Sports avec mes parents. Donc, je me suis inspiré au départ des meilleurs joueurs des Girondins ou qui venaient jouer contre Bordeaux. Ensuite, on a commencé à avoir des matchs de l'équipe de France à la télé dans les années 90. Et forcément, les joueurs qui ont marqué cette époque, que ce soit des JO de Barcelone jusqu'à Atlanta, m'ont beaucoup inspiré, notamment ceux qui jouaient sur mon poste. Donc je pense à Frédéric Vol ou Denis Latou, voire Raoul Prandi, son papa. Et après, je me suis aussi beaucoup inspiré des stars, entre guillemets, du monde du handball. Et à l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait Wislander, qui jouait avec l'équipe de Suède, qui était un joueur très complet, qui jouait sur plusieurs postes. Et c'est un joueur qui m'a beaucoup inspiré.
Et quand tu te souviens de ta première sélection en équipe de France?
Je m'en souviens très très bien. D'abord parce que c'était une grande surprise. Ça faisait seulement 3 mois que j'étais arrivé à Toulouse. Alors j'étais passé par l'équipe de France Espoir, donc de temps en temps on avait fait des stages en commun avec Léa et quelques oppositions. Je voyais bien qu'ils étaient 3 niveaux au-dessus de moi, donc jamais j'aurais pu imaginer être sélectionné aussitôt. Et je pense qu'on a eu la chance avec notre génération d'arriver à un moment où Daniel Costantini a voulu renouveler pour être plus ambitieux pour les championnats du monde 2001. Et donc petit à petit, entre 96 et 97, donc après les JO d'Atlanta, il a incorporé pas mal de joueurs de ma génération. Et j'étais l'un des derniers d'ailleurs à rentrer en équipe de France. Donc quand je suis arrivé au premier stage en novembre 97, à 20 ans, on se retrouve avec quelques joueurs qui sont nos idoles d'enfance. Et je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas à ma place. Je ne savais même pas où m'asseoir à la table des joueurs, ou même s'il fallait que je m'assoie avec eux. Donc c'était tellement impressionnant pour moi, psychologiquement et émotionnellement, que c'était compliqué après aux entraînements de donner le meilleur de moi-même. Et puis bon, finalement, la première semaine de stage s'est bien passée. On a fait 2 matchs de qualif contre la République tchèque. Bon, Daniel Costantini m'a bien utilisé et j'ai fait deux bonnes perfs. Donc après, ça a commencé en fait mon histoire avec l'équipe de France. Et j'ai été appelé de manière régulière et ça m'a permis de m'intégrer et de petit à petit me sentir légitime. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Il a fallu que je parte à Barcelone en 2002. Donc à 25 ans, pour me sentir vraiment un joueur à part entière de cette équipe de France.
Ouais. Jusqu'à devenir capitaine quand même.
Oui, alors ça c'est une autre surprise, parce que j'avoue que suite à la retraite d'Olivier Giraud après les Jeux de Pékin que nous avons remportés, il fallait nommer un nouveau capitaine. Donc le stage qui a suivi en novembre 2008, on entamait la campagne de qualification pour l'Euro 2010 et on attendait la décision du staff. Et à l'époque, il y avait des joueurs un peu charismatiques qui avaient beaucoup de caractère, qui me semblaient plus légitimes que moi. Donc, même si on avait pu postuler, je n'aurais même pas postulé, quoi. Donc, je m'attendais à ce que ça soit un Thierry Omeyer, un Guillaume Gilles, un Didier Dinard qui récupère le brassard d'Olivier. Et à ma grande surprise, le staff m'a nommé. Alors, au début, c'était temporaire pour voir comment ça allait se passer. Et puis finalement, l'aventure a duré 7 ans et en plus ça a été une période où on a énormément gagné de titres. Donc du coup, j'étais un peu privilégié de porter ce brassard et de me retrouver à chaque fois à recevoir le trophée et à pouvoir le soulever pour l'ensemble du groupe. Mais je ne me sentais pas forcément légitime ou meilleur que les autres pour ce rôle. Je l'ai fait avec mon caractère, en essayant de partager au maximum avec les joueurs de ma génération. Et comme je l'ai dit, l'aventure a été fabuleuse.
Et justement, avec ce rôle de capitaine, tu avais un discours particulier, par exemple, dans le vestiaire avant le match? Est-ce que tu avais une prise de parole un peu différente ou comment ça se passait?
Dès le départ, en fait, j'ai dit à mes coéquipiers de ma génération que oui, j'allais porter le brassard sur les terrains, mais qu'on était tous capitaines. Et que pour moi, mon rôle se cantonnait, entre guillemets, à bien intégrer les nouveaux, les jeunes qui allaient rentrer. Parce que je pensais, à juste titre, que je n'avais pas du tout à être le capitaine de ceux avec qui je partageais ce maillot depuis 10 ans. Et surtout être un bon relais entre le staff et le groupe de joueurs pour essayer de faire en sorte que la vie de groupe soit bonne et que l'équipe puisse performer sur tous les matchs et sur toutes les compétitions. Donc voilà, je pense que je m'en suis tenu à ce rôle-là. Alors c'est vrai qu'après, quand on porte le brassard et qu'on est capitaine, on est mis en avant. La presse, par facilité, plutôt que d'interviewer tous les joueurs, va toujours interviewer le meilleur joueur du match et le capitaine. Et donc je me suis retrouvé à faire beaucoup d'interviews et à être mis en avant. Et ce n'était pas du tout une volonté, mais en tout cas, j'ai accepté ce rôle-là. Et ça m'a surtout servi, je pense, pour mon rôle aujourd'hui d'entraîneur. Parce que quand on est capitaine, on pense beaucoup plus au groupe et aux autres qu'à ses performances individuelles, même s'il faut rester performant pour être légitime. Et finalement, c'est un bon intermédiaire entre le rôle de joueur pur et le rôle d'entraîneur.
C'est clair. Alors, tu parlais des entraîneurs aussi. En équipe de France, en tout cas, mais certainement en club, mais en équipe de France, tu as connu deux entraîneurs emblématiques, oui. Constantini et Onesta. Comment tu me les définirais, les deux?
Déjà, ils sont complètement différents.
Oui.
Ils viennent de régions différentes. Et c'est vrai que Daniel a été quelqu'un avec un fort ego et qui avait, entre guillemets, sorti le handball de l'ombre. Mmh. Donc, il était très directif. Ça avait bien fonctionné. Et donc, forcément, il inspirait le respect. Pour Claude, c'était complètement différent. Moi, je l'ai connu très jeune à Toulouse, puisque c'était mon coach. Et je suis rentré en équipe de France avant lui. Donc, quand il est arrivé en 2001 pour prendre la suite de Daniel, on venait d'être champion du monde. Donc, on était tous champions du monde, sauf lui. Et comme il avait entraîné à Toulouse et qu'entre guillemets, il n'avait pas le passé d'entraîneur que pouvait avoir Daniel, il a fallu qu'il trouve ses marques avec le groupe, qui gagne un petit peu de crédibilité aux yeux de certains. Et même si j'étais très content de le retrouver, je sentais des fois que le groupe ne partageait pas forcément ses idées au niveau du handball. Mais voilà, il a su aussi changer son type de management.
Ça n'a pas été simple d'ailleurs au début. Hein. Je me rappelle, je crois que d'ailleurs, finalement, l'histoire peut s'écrire très vite différemment, puisque jusqu'aux Jeux Olympiques en 2004 à Athènes, je crois que ça se joue sur... alors déjà, c'est multiples talents, sauf que l'alchimie ne se fait pas et finalement, ça ne fait pas une belle compétition. Mais quand même, ça joue presque sur un match, je crois, la suite de sa carrière un peu de sélectionneur se joue sur un match. Hein.
Comme beaucoup de sportifs ou d'entraîneurs. Moi, personnellement, si je n'avais pas pu me réveiller à la mi-temps du match contre l'Égypte en 2001, j'aurais très certainement plus été sélectionné par Daniel ou par Claude après. Et là, Claude, il était en contrat jusqu'au championnat du monde en Tunisie en 2005. Et c'est vrai que suite à l'échec d'Athènes au JO en 2004, il avait l'obligation de nous amener jusqu'au podium au championnat du monde. Et finalement, la compétition a très mal démarré. On s'est mis beaucoup de pression pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. Et puis on a arraché cette médaille de bronze qui a fait qu'il a été reconduit pour 4 ans. Et c'est à partir de là où, effectivement, il a fait évoluer son management et où on a pu vraiment tirer le meilleur de ce groupe. Donc, finalement, quand on regarde, il a passé 16 ans à la tête de l'équipe et c'est l'entraîneur le plus titré. Mais voilà, comme tous les entraîneurs, je pense qu'il faut s'adapter aux joueurs qu'on a ou aux athlètes qu'on a dans le groupe et essayer de tirer le meilleur du groupe et des athlètes pour avoir les meilleurs résultats. Donc des fois il faut être directif, des fois il faut être collaboratif, des fois il faut être entre les deux. Mais il faut bien analyser effectivement les athlètes qu'on a pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles.
Ouais, pas simple, hein. Pas simple ce rôle de manager.
Non, c'est coach. Pas simple du tout, d'autant plus quand on est dans un rôle de sélectionneur, parce que quand on est entraîneur au quotidien dans un club, on a les joueurs tous les jours, on construit un projet de jeu sur une durée qui finalement est beaucoup plus sereine. Quand on est sélectionneur, on récupère les joueurs tous les 2-3 mois, et arriver à construire un groupe et des automatismes, c'est beaucoup plus compliqué. On a moins de moments d'entraînement ensemble, donc il faut du temps, et il faut laisser du temps au coach. Et on le voit aujourd'hui avec le sport de haut niveau, et notamment le sport co, les entraîneurs n'ont pas toujours le temps qu'ils devraient avoir.
Ouais, c'est clair. Et dans ta carrière, donc, tu parlais de tes coéquipiers, je crois qu'il y en a certains qui ont vraiment marqué ta carrière aussi. Tu as fait chambre longtemps avec Thierry Meyer, je crois. Oui.
En fait, j'ai eu la chance d'évoluer avec pas mal de générations différentes. Quand je suis arrivé en équipe de France, il y a des joueurs qui m'ont marqué par leur talent, mais aussi par leur charisme. Ouais. Et forcément, des joueurs comme Jackson Richardson ou Stephen Stokelin étaient des emblèmes pour nous. Et c'est des joueurs qui avaient été les meilleurs joueurs de la planète, et c'était des références pour nous, jeunes joueurs. Mais après, il y en avait d'autres, hein, comme Guéric Carvalhec, Bruno Martini, Christian Gaudin, qui avaient été champions du monde et qui faisaient partie des meilleurs joueurs de la planète aussi. Donc ce sont des joueurs sur qui forcément on s'appuyait beaucoup et qui nous ont beaucoup inspirés. Après, dans ceux de ma génération, c'est vrai que Thierry a été celui qui m'a le plus impressionné parce qu'il était à 100% pour tous les moments en fait, de sa carrière, que ce soit à l'entraînement, en préparation et même en dehors dans la vie du groupe. Quand on faisait des jeux, il ne supportait pas de perdre. Donc ça a été quelqu'un d'inspirant dans cette volonté toujours de performer et de ne jamais finalement s'avouer vaincu, même quand on jouait contre meilleur que nous. Et après, dans les générations qui ont suivi, forcément des Nikola Karabatic ou des Mikhaïl Guigou, même s'ils étaient plus jeunes, on les a vus arriver très très jeunes, très talentueux. Ils nous ont de suite aidés à aller chercher des médailles et des titres. Donc c'était quand même impressionnant. Et puis après, les nouvelles générations derrière, comme les Valentin Porte et les Quentin Maillet. Et surtout de se retrouver avec les fils de joueurs qu'on avait vus évoluer ou avec qui on a évolué. Donc ça, c'était assez impressionnant aussi.
Et il y a un lien entre vous, hein, parce que vous vous croisez encore. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le jubilé de Mikhaïl Guigou. Ouais. Il y a des choses qui...
Ce que je trouve fabuleux, c'est que... On arrive à garder finalement ce lien et à prendre beaucoup de plaisir quand on se croise, que ce soit de la génération des bronzés Barjo jusqu'aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est quand même 30 ans d'histoire de cette équipe de France. Et j'étais encore avec Jackson le week-end dernier à Toulouse pour le water rugby. Et quand je passe le week-end avec Jackson, Valérie Nicolas et William Acambray, je me dis, voilà, quelle belle photographie finalement de la réussite de cette équipe de France ou de ces équipes de France, parce que les filles ont aussi énormément gagné. Mmh. Et c'est vrai qu'on est, quand même une grande famille, même si on n'est pas forcément tous très proches, mais on a un énorme respect pour tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre sport, que ce soit les pionniers, on va dire, au début des années 90, jusqu'à ceux qui ont été champions olympiques à Tokyo la saison dernière. Ouais.
Mais alors quand même, il y a eu une évolution dans cette carrière, parce qu'on en parlait un petit peu hier, dans les personnalités, dans les gestions d'équipe. Toi, tu disais, avant toi, il y avait eu les Barjots, et là, ça partait un peu quand même dans tous les sens. Mais il y avait des troisièmes mi-temps, quoi. Et en fait, aujourd'hui, toi aussi, tu as fait partie de cette génération qui, il y avait sur le terrain, c'était difficile. Mais derrière, vous avez besoin aussi de continuer à créer ces liens ensemble. Et tu dis peut-être qu'aujourd'hui, il manque un petit peu ces liens derrière, quoi. Hors compétition, hors handball, quoi.
Alors, je ne sais pas si ça manque, mais en tout cas...
Toi, ça t'aurait manqué, en tout cas.
Moi, ça m'aurait manqué. Et c'est vrai que ce soit la génération avant moi ou la mienne... On avait évolué dans un handball qui n'était pas professionnel au départ et on a découvert le professionnalisme au fur et à mesure. Donc on s'est adapté au fur et à mesure aux contraintes de cette vie de sportif professionnel. Mais pour nous, le handball, c'était un moyen bien évidemment de performer, mais surtout de se retrouver, de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître et finalement de construire un groupe beaucoup plus solide et qui était dans l'entraide en fait. Mmh. C'est vrai que depuis, on va dire, 10-15 ans, les nouvelles générations qui arrivent sont beaucoup plus, on va dire, à même à comprendre les rouages du professionnalisme parce qu'ils n'ont connu que ça. Et donc, ils sont beaucoup plus attentifs à leur hygiène de vie, à leur quotidien pour essayer de performer. C'est leur méthode actuelle, mm-hmm. Donc il faut la respecter. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a le sentiment que ça manque de moments de partage en dehors des terrains pour pouvoir construire vraiment un groupe qui puisse performer ensemble sur le terrain. Mais après tout, ils nous donnent tort, puisqu'ils ont aussi gagné un titre il y a un an. Et c'est vrai que finalement, je pense qu'il faut s'adapter à chaque génération.
Oui, c'est sûr. Mais pour moi, pour vous avoir vu champion olympique à Pékin et à Londres, c'est vrai que la fête derrière a été belle, quoi.
Oui, après, la fête derrière les Jeux de Tokyo a été belle aussi.
Oui.
C'est juste que nous, on pouvait aussi de temps en temps s'octroyer des moments de partage pendant la préparation ou au début de la compétition et ça ne nous gênait pas pour performer. Aujourd'hui, on a des athlètes qui vont fêter la fin de la compétition, mais qui en amont ne vont faire aucun écart. Mmh. Donc c'est un petit peu différent. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est leur façon de fonctionner. Et finalement, si à la fin, ils gagnent, c'est bien le principal.
Ouais. Puis en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la moindre photo, le moindre truc qui part, c'est compliqué. Hein.
Ils ont cette contrainte-là que nous n'avions pas. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Ils ont aussi une notoriété différente. Mmh. Alors, il y avait bien évidemment avant certains joueurs qui étaient... qui jouissait d'une notoriété importante comme Jackson, mais c'était un cas rare. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la médiatisation du handball, il y en a beaucoup plus, voire la totalité qui sont sur les devant des projecteurs et forcément, ils peuvent pas se permettre de faire tout ce qu'on faisait nous à l'époque.
Ouais, c'est clair. Alors là, on parle des grands moments. Quels ont été les grands moments de ta carrière en équipe de France et en club? Parce que je crois qu'en club, notamment à Barcelone, t'as eu des beaux moments aussi.
En fait, je dissocie vraiment le club, on va dire l'épopée club et l'épopée équipe de France. En équipe de France, il y a des titres qui ont été, très importants pour moi, mais aussi pour notre sport. Le premier titre en 2001 a été magique.
En France.
Parce que j'ai gagné avec les anciens et que c'était mon premier titre avec l'équipe de France et que j'étais très jeune. Après, forcément, le premier titre olympique à Pékin, c'est ce qui nous a fait basculer d'une grande équipe de sport co à une reconnaissance finalement internationale et de la part de tout le sport français. Le titre de 2009 en Croatie, parce que c'était ma première compétition en tant que capitaine et qu'on jouait en plus dans le pays de notre plus gros rival de l'époque. Le titre olympique en 2012 qui a été revalidé et ça c'était très important pour notre génération. Donc voilà, ces titres-là m'ont forcément marqué. Après en club, le premier, il marque tout le temps. Donc cette Coupe de France que j'ai eu la chance de gagner à 21 ans avec Toulouse, ça a été le début finalement d'une longue carrière et qui m'a donné fin de titre pour la suite. Le premier titre de champion de France avec Montpellier en 2000 qui a été très important aussi parce que c'est venu valider tout le travail que j'avais fait avant. Et puis forcément le fait de pouvoir jouer dans le club de mes rêves au Barça et de pouvoir gagner la Ligue des Champions en 2005, ça a été un moment extraordinaire. Ouais.
Parce que tu le disais, il y a eu toute une fête autour aussi, une célébration avec les joueurs de foot.
Oui, alors en fait, le foot ne gagnait plus depuis un bon nombre d'années. Et donc, quand j'arrive en 2002 au Barça, il y a des tensions à l'intérieur du club. C'est assez compliqué pour les footballeurs. Et finalement, la saison où on gagne la Ligue des Champions en 2005, il ils arrivent à gagner à nouveau ce titre de champion d'Espagne. Et donc le club, pour fêter ça, a organisé toute une après-midi et une soirée pour ces deux équipes. Et donc on a défilé dans la ville en bus pendant 4 heures. Il y avait énormément de monde. La presse a parlé d'un million de personnes, mais bon, ça me paraît quand même énorme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un monde fou. Alors bien évidemment pour les footeux, hein, pas pour nous, mais on a eu la chance d'en profiter. Et puis après, on est revenu au Nou Camp, on a fait des tours d'honneur avec le trophée devant 100 000 socios. C'est quelque chose qui n'existe pas au handball. Et ça s'est fini par un feu d'artifice dans le stade. Donc voilà, c'est le seul club au monde où on peut vivre des moments pareils.
Ouais. Donc tu es retourné à Barcelone quelquefois?
Ah, j'y retourne fréquemment, oui. Depuis mon départ en 2008. J'ai gardé quelques amis qui vivent encore là-bas. Et c'est vrai que c'est une ville qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en plus c'est la ville où est né mon fils. Donc forcément j'ai une attache particulière avec Barcelone.
Alors là on va changer un peu d'univers, on va reparler de ton rôle d'entraîneur, mais à un moment tu as accueilli un certain Florent Manaudou.
Oui.
Florent Manaudou, donc tout le monde connaît quand même.
Oui, tout le monde connaît Florent.
Plusieurs fois champion olympique de natation et qui se lance dans ce défi. Juste incroyable, quoi. Comment tu l'as vu arriver? Parce que ça s'est bien passé quand même. Hein.
Ah, ça s'est très très bien passé, mais parce que Florent est quelqu'un de très facile au quotidien.
Oui.
Et c'est vrai que quand j'ai eu bruit de son interview à Rio, moi j'étais sur place puisque je commentais les matchs des garçons pour France Télévisions. Et tout de suite on m'en a parlé, on m'a dit ouais, tu as vu l'interview de Florent, il veut faire du handball et tout. J'ai dit bon, mais c'est chouette ça, c'est plutôt une bonne chose. Après c'est compliqué de changer de sport et de performer de la même manière. Mais je trouvais finalement son envie légitime, surtout que entre guillemets il n'y avait aucune arrogance dans ses propos. Il avait envie de pratiquer un sport qu'il aimait pour prendre du plaisir alors qu'il n'en prenait plus dans le sien. Donc voilà, quand je suis rentré de Rio, je me suis retrouvé dans le même avion que lui. Et donc à l'aéroport, naturellement, je me suis rapproché de lui et j'ai dit, écoute, si tu veux venir pratiquer au club, n'hésite pas. Il m'a dit oui, bon, il m'a dit j'ai encore des choses à faire en natation jusqu'au mois d'octobre-novembre, mais je viendrai te voir, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il est venu au mois de novembre, je l'ai un petit peu testé pendant une petite demi-heure.
Ouais.
Et en fait, de suite, j'ai vu chez lui des facilités parce qu'il avait pratiqué très jeune et il avait finalement des savoir-faire individuels, une technique assez propre. Donc je me suis dit, bon, ça peut être très intéressant de travailler avec lui, surtout que c'est un physique hors norme.
Oui.
Après, j'ai détecté tout de suite qu'il y avait des petits soucis au niveau du train inférieur et qu'il allait falloir faire un gros travail en amont avant qu'il puisse faire
le handball.
Exactement, oui. Surtout les changements de direction.
Oui.
Donc finalement, on lui a concocté un petit programme physique, ce qui semble assez assez paradoxal quand on voit la machine que ça peut être. Mais il avait vraiment besoin de ce travail-là, notamment le travail de proprioception au niveau des genoux et des chevilles. Donc il a très très bien travaillé pendant plusieurs semaines avec notre préparateur physique. Et à partir de janvier, il s'est mis vraiment à travailler très dur au niveau handball. Et il a passé les étapes de manière vraiment très très rapide. Ce qui fait qu'il est passé de jouer avec le centre de formation à devenir un joueur important de cette équipe en quelques mois. Donc moi, le voyant évoluer aussi rapidement, j'ai commencé à l'incorporer à des entraînements de l'équipe professionnelle. Physiquement, il tenait largement le coup, mais il y avait effectivement des choses à améliorer pour qu'il puisse vraiment exploiter son potentiel physique au maximum. Et voilà, et puis les choses sont faites naturellement jusqu'à ce qu'on arrive en décembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Et que je me réunisse avec mon manager et que mon manager me dise écoute, je sais que tu as besoin d'un troisième pivot pour la saison prochaine, mais on n'a plus le budget, quoi. Et donc moi, ça a fait tilt de suite. Je dis mais on n'a qu'à proposer un contrat à Flo, déjà parce que lui c'est ce qu'il aimerait et parce que je pense qu'aujourd'hui il est prêt pour nous aider de manière ponctuelle sur l'équipe professionnelle, quoi. Donc il m'a dit, ouais, bah écoute, si tu crois, super nouvelle, parle Lyon et tu me fais un retour. Donc je vois Flo début janvier quand on redémarre la prépa avec les pros, la prépa hivernale. Et je lui dis, bah écoute, il faut qu'on parle. Il me dit, ouais, bah, ça tombe bien parce que je vais te voir. Et donc on discute et donc je laisse entamer la discussion. Et il me dit, écoute, je suis allé nager au mois de décembre avec le Cercle, les nageurs de Marseille. Et ben, je nage plus comme avant, hein, je n'entraîne plus comme avant, mais j'ai nagé aussi vite qu'avant. Donc j'ai envie de retourner dans les bassins et je veux tenter ma chance pour aller chercher une médaille à Tokyo. Sauf que Tokyo, c'était un an et demi après.
Oui.
Voilà. Donc il avait juste le temps pour se remettre à fond dans la natation et aller chercher cette médaille-là. Donc j'ai dit, écoute, c'est une super nouvelle, je suis super content pour toi. Si tu as retrouvé l'appétit pour retourner dans les bassins et aller chercher voilà, des performances. Et donc il me dit, et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et je dis, non, mais c'est pas important.
Oui, bah oui.
Il me dit, non, mais il insiste. Et je dis, bah, écoute, en fait, on est d'accord avec le manager pour te proposer un contrat professionnel pour la saison prochaine. Mmh. Et il me dit, ah mince, c'est ce que je voulais. Mais là, il me dit, tu vois, ce qui me frustre, c'est que ben, si je reste en balle, je vais jouer au meilleur niveau français, mais je ne serai jamais confronté au meilleur niveau de la planète, finalement, au meilleur joueur. Et il me dit, si je retourne dans les bassins, je peux aller chercher une médaille olympique. Et je lui dis, mais bien sûr, mais c'est normal que tu aies envie de retourner à la natation, donc vas-y, et je serai ton premier supporter. Et je te remercie pour ces deux belles années où tu as été irréprochable sur le comportement et où tu as été super dans le travail et dans tout ce que tu as mené au club au quotidien. Donc bonne chance. Finalement, les Jeux ont été reculés d'un an.
Tant mieux pour lui.
Et j'étais dans la piscine à Tokyo quand il a été chercher cette médaille d'argent. Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux parce que je le voyais encore avec le maillot d'entraînement de Horde. Et je me suis dit, voilà, il a réussi son pari. Et c'est fabuleux pour un sportif de pouvoir vivre ces moments-là, quoi.
Ouais. Oui, et puis surtout, bah, il est allé essayer autre chose, avec succès d'ailleurs, oui. Et il revient encore avec succès, et peut-être que s'il n'était pas allé dans le monde, peut-être qu'il aurait été définitivement la natation, enfin on ne sait pas, hein, on ne saura jamais. Bah, mais,
en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu cette discussion avec lui après Rio, je sentais vraiment une grosse lassitude chez lui, mentale, et quand on est comme ça, on ne peut plus performer à son meilleur niveau, donc c'était inutile de continuer comme ça, et finalement, ce petit break au handball lui a fait du bien mentalement et physiquement parce qu'il a beaucoup travaillé, comme je l'ai dit, au niveau du train inférieur et ça lui a permis d'avoir une meilleure propulsion dans l'eau. Et finalement, ça a été bénéfique pour lui et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux autres sports aussi parce que j'essaye de piocher dans les autres sports ce qui pourrait être pertinent d'amener au handball en termes de préparation physique, de préparation mentale, d'approche tactique, etc. Et je pense qu'on s'enrichit forcément des autres disciplines.
Si tu n'avais pas été handballeur ?
Ben, si je n'avais pas été handballeur, j'étais parti pour faire pompier ou prof de sport. Donc ça aurait été une vie complètement différente.
Ouais. Et dans un autre sport, tu aurais aimé être...
Ben, dans un autre sport, j'ai goûté à d'autres sports quand j'étais jeune. J'ai fait sport individuel, sport co, donc j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du foot... j'aimais beaucoup pratiquer le basket, mais...
Et le ski, voilà, non ?
Bah, le ski, j'ai beaucoup pratiqué, mais c'était pour le fun, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand j'y allais en vacances. Mais après, je n'étais pas fait pour ça, en fait.
Ouais.
Parce qu'avec mon gabarit, il aurait fallu que je fasse de la descente. Mmh. Et
tu sais, maintenant, il y a les slalomers qui sont à 2
mètres. Ah bon, là, tu m'apprends quelque chose. mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas assez kamikaze pour faire du ski de haut niveau.
Tu as été champion du monde en 2001, en France. 2024, les Jeux, qu'est-ce que ça t'inspire?
Bah, ça m'inspire surtout que nos athlètes ont une chance extraordinaire de pouvoir faire les Jeux chez eux. On y a cru, nous, en 2008 et en 2012, et finalement, Paris n'a pas été retenu. Les Jeux de Londres ont été pratiquement comme des Jeux en France, en tout cas pour nous, les handballeurs. On a joué la finale devant 10 000 personnes. Il y avait, je pense, 90% des gens, c'était des Français ou qui nous supportaient. Donc, c'était pratiquement des Jeux à domicile. Mais voilà, c'est vrai que cette chance de pouvoir vivre les Jeux à la maison et de pouvoir vivre un moment aussi fabuleux. Je pense que c'est quelque chose qui compte énormément dans la vie d'un athlète. Et en plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que nos deux équipes arrivent avec un titre olympique. Donc ils sont tenants du titre. Ils vont devoir assumer ce rôle de favori parce qu'ils jouent aussi à la maison. Et ça va être une énorme fête pour notre discipline parce que l'aventure olympique a commencé en 92 à Barcelone. Et 32 ans plus tard, on a nos deux équipes qui sont championnes olympiques et qui vont évoluer à domicile. Donc on va jouer dans un stade Pierre Mauroy où il y aura 28 000 places. Et franchement, faire quart, demi et finale devant 28 000 supporters, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu. Et je pense que ça va être un moment fabuleux. Mais avant ça, il faudra bien négocier les matchs de poule et avancer sereinement dans la compétition. Donc voilà, j'ai hâte d'y être pour voir comment on va performer l'équipe parce que j'ai eu la chance de suivre ces équipes-là à Rio et à Tokyo comme consultant et comme spectateur privilégié parce que j'étais sur place. Et voilà, on a eu quand même quatre finales sur ces deux aventures, et dont deux remportées à Tokyo. Donc voilà, j'espère que nos deux équipes seront en finale à Lille pour ces Jeux de Paris 2024 et que ça sera une énorme fête pour notre sport.
C'est sûr. Alors aujourd'hui, tu as d'autres projets également, plus dans le vers Pau, enfin par là-bas quoi.
Oui, alors...
Je ne sais pas si tu peux en parler, mais...
Oui, si, je peux en parler, ce n'est pas un problème. En fait, c'est vrai que j'ai eu un changement dans ma vie perso il y a un an. J'ai rencontré quelqu'un qui vit sur la côte ouest de la France, dans le sud-ouest, vers Bayonne. Et donc, du coup, depuis plusieurs mois, je m'y déplace assez fréquemment. Alors, je garde bien évidemment une attache à Aix-en-Provence, parce que j'y ai mon fils, qui a 15 ans, et que... J'ai besoin de le voir et d'être, on va dire, au maximum près de lui. Mais c'est vrai que entre ma vie professionnelle et cette nouvelle rencontre, je ne suis plus aussi souvent que ça sur Aix. Donc du coup, je réadapte ma vie perso et ma vie professionnelle suite aussi à l'arrêt de ma collaboration comme coach à Aix en Provence il y a 2 ans. Et voilà, donc je suis amené à beaucoup voyager, je suis souvent sur Paris, je suis souvent dans le sud-ouest et dernièrement j'ai eu des opportunités de travail, ce qui fait que finalement j'essaie de planifier au mieux les choses, mais j'ai une vie de troubadour. Ouais.
Bon, écoute, on n'arrive pas loin de la fin du podcast. Je vais te dire un mot et il faudrait que tu me dises
à quoi je pense.
À quoi tu penses, voilà, bon, c'est assez facile. Hein. Ouais. Handball.
Famille.
Ski.
Plaisir.
Médaille.
Réussite collective.
But.
Finalité.
Champion.
Champion. Privilège.
Musique.
Détente.
Consultant.
Témoin.
Présent.
Présent, on parle du moment présent, hein, c'est ça?
Comme tu veux.
Le présent. Présent, je vais te dire. Adaptation.
Et avenir?
Avenir, bonheur.
Yes. Alors, les deux dernières questions traditionnelles du podcast, est-ce que tu as une devise dans la vie ou est-ce que tu en avais une pendant ta carrière?
Oui, j'ai une devise dans la vie qui est de ne pas faire subir aux autres ce que j'aimerais pas subir. Voilà.
Ah oui, ça, c'est important, c'est clair.
Oui, et puis c'est valable dans tous les moments de vie, que ce soit en famille, avec les amis, dans le secteur professionnel, dans le sport. Voilà, je sais que j'ai fait énormément de rencontres dans ma vie et que voilà, les gens qui m'ont fait du mal ou qui ont en tout cas pas participé à mon épanouissement, ben, j'essaie de ne pas leur ressembler. Voilà.
C'est clair. Et donc, mon podcast s'appelle Belle Trace. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ?
Une belle trace, c'est quand on a eu une vie ou un parcours qui correspond à ses attentes et où on peut se dire, voilà, j'ai profité de ma vie, j'ai profité au mieux de mes capacités et j'ai mis en place des choses qui m'ont permis d'avoir une vie plaisante, parce que la vie est difficile, il y a des moments de vie qui sont compliqués. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, l'être humain a cette faculté à souvent se rappeler du meilleur. Et quand il y a énormément de souvenirs qui sont beaux, et qu'on a du mal à se souvenir de tout, c'est que la vie a été riche et qu'elle a été bien remplie et que voilà, on a laissé une belle trace et qu'on peut partir tranquille.
Super, écoute, merci. J'espère qu'on partagera quelques belles traces de ski.
Dans le futur aussi.
Exactement. Dans le futur.
Avec grand plaisir, oui, ça c'est sûr.
Ça, on ne l'a pas encore trop fait, mais...
Non, mais après, je ne suis pas un fanatique de la poudreuse, contrairement
oui,
à toi.
On fera des petits bords de piste, je t'initierai, t'en fais
ça
pas.
Ça marche, avec plaisir.
Merci Jérôme.
Merci à toi.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.